Marie-Christine Manuel, bonjour.
Bonjour Sandra et bonjour aux auditeurs et auditrices. Je suis très heureuse de vous retrouver et merci toujours à Radio Maria de nous donner l'occasion de témoigner en tant que psychologue chrétien et chrétienne. Et surtout, merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute sur cette émission de la psychologie. Je me présente, je suis psychologue clinicienne à Marseille, bien sûr membre de la V21, Association nationale des psychologues catholiques, et je suis aussi psychothérapeute, thérapeute de couple et de famille, hypnothérapeute et psychogénéalogiste, et spécialiste du traitement des traumatismes et de l'approche centrée sur les solutions et la santé. Et je suis aussi membre des différentes cellules d'écoute et d'accueil des personnes victimes de différents abus. Et aujourd'hui, je voulais parler de l'intelligence contre soi-même, un titre qui peut peut-être vous paraître étrange, mais cela fait longtemps que je me suis intéressée au problème du déficit mental, aux troubles de l'apprentissage et tout ce qui peut être en relation avec la tête d'un enfant en difficulté scolaire. Dans mon travail en tant que psychologue, j'ai souvent été interpellée par des familles et parfois par des enseignants à propos des difficultés scolaires de certains enfants. Sur le plan théorique, la notion d'intelligence fait penser à capacité, à faculté, à une fonction qui est propre à la nature individuelle de l'enfant, voire de l'adulte, sans tenir compte de l'aspect relationnel, familial et sociétal. Sur le plan idéologique, la notion d'intelligence m'a toujours paru un peu suspecte, voire dangereuse. Pourrions-nous arriver à classer les enfants en enfants intelligents et enfants non intelligents, même si maintenant se développe ce concept d'intelligence multiple dans lequel les parents et les enfants peuvent se reconnaître? Je pense que lorsqu'un enfant ne fonctionne pas comme nous attendons qu'il le fasse, c'est parce qu'il est en train d'utiliser ses capacités contre lui-même. Oui, contre lui-même. J'aimerais commencer en vous racontant une anecdote qui pourrait ensuite nous servir comme image, comme métaphore, pour parler des enfants considérés comme non intelligents. C'est l'histoire de mon formateur, Louis Vasquez, venu du Chili. Un père, le père d'un de ses amis, était plongeur au port de Valparaiso. Ce père était scaphandrier, c'est-à-dire qu'il portait un scaphandre métallique à fermeture hermétique pour descendre en profondeur. Un jour, qu'il se trouvait à plus de 30 mètres sous l'eau, son scaphandre a craqué. Et à cause de cet accident, son tympan a cédé et il est devenu presque sourd. L'ami de Luis Carlos et son père communiquaient par des gestes à la façon des sourds-muets. Une fois, Luis dit à Carlos, « Mais pourquoi tu le laisses parler par geste, puisqu'il sait parler, il n'est pas muet ?» Et Carlos répondit à Luis, « Parle-lui, toi, alors tu vas voir, » a répondu cet ami. En suivant sa consigne, Luis a commencé à dialoguer en parlant très fort à son père, qui a d'abord répondu correctement. Par exemple, il a dit, « Oui, on était à la recherche de grands coquillages. » Mais tout de suite, il s'est mis à bégayer, à avoir des phrases incompréhensibles pour Luis. Il émettait des sons parfois non articulés, parfois d'une voix trop élevée ou trop basse. « Tu vois ce qui se passe ?» dit Carlos à Luis. « Oui, je vois ce qui se passe. Je ne comprends rien à ce que dit ton père, » dit Luis. « Mais oui, » ajouta cet ami, « parce qu'il n'entend pas sa voix. » Et là, nous comprenons que pour parler, il faut s'entendre. Quand on ne s'entend pas, on ne peut pas parler. Je pense qu'il y a un lien très étroit entre l'oreille et la parole. Un circuit étrange, une rectification instantanée. Vous avez pu remarquer, lorsqu'un enfant veut dire quelque chose alors qu'il a un casque sur les oreilles pour écouter de la musique, il se met à parler très fort parce qu'autrement, il ne s'entend pas et qu'il doit s'entendre pour pouvoir parler. Je pense que l'enfant qui passe pour déficient ou appelé retardé, est un enfant qui ne s'entend pas et qu'une partie très importante, première dans la prise en charge d'un enfant, qui a une utilisation négative de son intelligence. Eh bien, cette prise en charge est de l'amener à s'entendre penser pour qu'il puisse savoir que sa tête existe, comme le sourd qui a une voix qu'il ne peut guère utiliser. Beaucoup d'enfants déficitaires ne savent pas d'abord entendre leur pensée et ensuite s'en servir. Si vous me permettez encore une autre image, ces enfants se servent de leur tête comme du passoir. C'est la tête passoir, c'est-à-dire que vous introduisez un mot, une idée, une phrase, et il peut partir dans tous les sens, comme l'eau qui se disperse par les trous d'une passoire. C'est l'association libre en permanence. Mais qu'en faire ? Par exemple, vous parlez avec l'un d'entre eux et vous dites « Est-ce que tu es allé à l'école ?» Et l'enfant répond « Ah, j'ai vu un poney hier. Ah, tu as vu un poney ? Tu manges au restaurant, toi ? Oui, parce que moi je mange au restaurant. Et la dame, c'est ta copine ? Quelle dame ? Tu connais un poney ? C'est à peu près le dialogue qu'on peut avoir avec ses enfants si on discute sans se soucier de l'encadrement rationnel de leur discours. Bien entendu, dans le domaine psychologique, ce dialogue, peut être très important pour connaître la vie affective de l'enfant parce que ses paroles, apparemment sans connexion, exposent des associations fondées sur des liens établis par l'enfant à partir de son vécu. Dans mon expérience, je suis peut-être lente, je peux mettre jusqu'à un an pour arriver à comprendre des choses qu'un enfant m'a dites ou faites lors des premières rencontres. Mais comment faire ? Comment est-ce que je fais ? Je vais partager cette expérience avec vous. Je prends le petit et je lui demande « Comment est habillée ta maman ?»« Maman est habillée avec une jupe. » De quelle couleur est la jupe de ta maman ? Verte. Alors, je lui dis, viens ici. Je lui cache les yeux. Dis-moi comment est habillée ta maman ? Avec une jupe. De quelle couleur ? Verte. Et tu la vois où ? Je la vois. Oui, mais où est-ce que tu la vois ? Je sais pas. Non ? Alors j'insiste. Où est-ce que tu vois la maman avec la... Cet enfant commence à comprendre qu'il a des yeux dans la tête, qu'il voit quelque chose là-dedans, dans sa tête. S'il n'y arrive pas tout seul, je lui dis « Tu vois la jupe de ta maman dans la tête, dans ta tête. Tu l'as déjà vue avec tes yeux. Maintenant, tu la vois dans ta tête. » Cette chose qui est très simple à dire et à expliquer provoque des conséquences très importantes dans la tête de l'enfant. L'enfant commence à comprendre qu'il a une tête et qu'il a des choses qui se passent dans sa tête. C'est comme un sourd, qui commence à entendre sa voix et qui peut régler la modulation de ce qu'il dit. Je dirais que pour moi, la première partie du travail avec les enfants considérés comme déficitaires est de leur faire découvrir qu'ils ont une tête et que cette tête est un intérieur à eux, qui n'est pas transparent. Pour moi, la première partie du travail avec ces enfants est de travailler avec un enfant qui est décapité, entre guillemets, et à qui l'on va mettre une tête en place et faire que cette tête existe. Se montrer curieux pour cette tête, c'est pour moi important. Demander à l'enfant comment il a fait pour trouver telle ou telle chose, c'est essayer de lui faire fonctionner sa tête. Ici, il me semble qu'il y a un point relationnel avec l'enfant qui peut être très important à commenter. Comme je vous l'ai dit, je suis thérapeute de famille et beaucoup de familles qui ont un enfant avec une difficulté de ce type généralement font cela avec bienveillance, mais quelquefois peuvent entretenir la difficulté de l'enfant. Il s'agit de familles avec beaucoup de ressources, qui ont installé une économie de communication, qui peut-être freine l'enfant à utiliser ses pleines capacités. Je vais vous donner un des exemples. Une famille, l'enfant a 15 ans et le père, qui découvre que l'enfant, suite à des consignes que je lui avais données, est capable de s'attacher les chaussures tout seul. Et cela fait une dizaine d'années que c'est lui qui fait et défait les lacets des chaussures de son fils. Parce qu'il était pressé le matin, l'enfant a dit « Je ne sais pas faire ». Et cela de mille manières, en le disant, en ne le faisant pas, en faisant traîner, etc., etc. Et la bonne famille, eh bien, essaie d'être efficace, entre dans l'économie de communication et d'efficacité. On ne peut prendre un moment, tout le temps, pour arrêter de faire et renvoyer l'enfant à ce qu'il a à faire. C'est éprouvant pour les parents. Et il se produit une économie de vie, un mécanisme énergétique tel que l'enfant ne fait pas et les autres font à sa place. On ne peut pas, bien sûr, mettre en accusation la famille. Ça ne sert à rien non plus. Il faut pouvoir aider les parents à découvrir quels sont les espaces, les conduites où cet enfant pourrait éventuellement faire des choses et où les autres font à sa place. L'enfant utilise des stratégies pour éviter de travailler, pour éviter de faire des tâches du quotidien. Dans mon lieu de consultation, je vois un enfant que l'on va appeler Christophe, 14 ans, qui est en classe spécialisée. Je ne sais plus combien d'années il a de retard. Christophe, je lui dis, quel jour est-on aujourd'hui? Et le là, on commence à travailler. Vous pouvez deviner ce que me répond Christophe. Je ne sais pas. Je lui dis, tu ne sais pas, essaie de réfléchir. Quel jour est-on aujourd'hui? Je ne sais pas. Qu'as-tu fait aujourd'hui? J'étais à la maison. Pourquoi aujourd'hui étais-tu à la maison? Parce que je n'étais pas à l'école. Et hier j'avais école. Et avant-hier, j'étais au centre. Et avant-avant-hier, j'étais chez ma grand-mère. Et pourquoi étais-tu chez ta grand-mère? Parce que c'était dimanche. Et après dimanche, pourquoi étais-tu à l'école? Parce que c'était lundi. Et après, hier, je suis allée à l'école. C'était quel jour? Mardi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, mercredi. Tu le sais ou tu ne le sais pas? Mais oui, je le sais. Ce travail est éprouvant, presque pénible. C'est ça le travail qu'il faut faire. Pendant 45 minutes, je le fais. C'est un travail pour essayer de détruire l'évitement de la pensée. Les stratégies économiques que l'enfant a mises en place pour ne pas se servir de ses propres connaissances, de ses propres mécanismes. Il utilise l'énergie des autres, le fait que les autres sont pressés et ce que nous pouvons demander aux parents, aux instituteurs spécialisés, c'est de nous aider à démonter quelques stratégies d'évitement de la pensée. Je propose aux parents un jeu. Je leur dis qu'on va jouer au détective et qu'on va observer comment l'enfant les fait marcher, comment il les fait travailler à sa place, dans quel domaine l'enfant se débrouille pour leur faire faire à sa place, pour qu'ils puissent bien étudier les tactiques que l'enfant utilise. Et quand ils ont pu jouer ce rôle, ils nous racontent et on peut choisir ensemble un point sur lequel eux ne vont plus jouer le jeu. Ceci est très important parce que les membres de la famille commencent à comprendre que peuvent aider l'enfant. Les membres de la famille commencent à comprendre que l'enfant n'est pas bête, mais qu'il se sert d'une manière très particulière de son intelligence. Pourquoi un enfant utilise-t-il son intelligence de manière capricieuse au lieu de s'adapter à une logique, adaptée à l'entourage? Je vais encore vous donner un petit exemple. Une enfant arrive et tout de suite la maman me met mal à l'aise en me disant « Non, pas la peine de lui serrer la main, elle ne la serre jamais. » J'oublie et lorsque l'enfant part, j'essaie de lui serrer la main. L'enfant ne serre pas la main. Jamais elle ne me serre la main. Les mois passent et le travail avec cet enfant montre combien ce geste était important pour elle. Le problème le plus important qu'avait cet enfant était la mort de son père. Et peu à peu, j'ai réalisé que la poignée de main, étant aussi un signe de condoléance, elle prenait justement ce sens pour elle. Au fond, ce geste absurde s'inscrivait bien dans une signification qu'on arrivait à comprendre au fil des mois en vivant une relation avec sa famille, mais en mettant aussi cette information dans le travail avec la famille. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas nouveau en psychanalyse. Ce sont des choses très classiques. Mais pour moi, ce qui me semble important, c'est de pouvoir faire un travail avec la famille, de sorte que la famille évolue, change de regard avec moi et comme moi et ensemble, change la position qu'elle avait à l'origine par rapport à l'enfant, en lui permettant ainsi de trouver une place différente. Autrement, cet enfant, comme dans n'importe quelle thérapie, peut continuer à se rigidifier dans les débilisations mentales. Il n'y a pas d'autres alternatives qu'une position à l'économie de déficience mentale. Pour mieux aborder ce vaste thème de la vie affective de l'enfant, je voudrais me servir d'une petite scène. Un enfant regarde la télévision dans le salon et soudain il se lève, va vers la cuisine et regarde sa mère. Sa maman lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» L'enfant répond rien et il retourne regarder la télévision. Qu'est-ce que cet enfant fait quand il se met debout, comme hypnotisé, va vers la cuisine, vérifie en quelque sorte la présence de sa maman et continue à regarder la télévision? Pourquoi a-t-il interrompu sa pensée, son attention, sa concentration sur la télévision? Pourquoi est-il parti ailleurs? Cet enfant, par exemple, ne travaille pas si je ne suis pas à côté de lui. Et je ne peux pas m'occuper de lui parce que j'en ai 15, j'en ai 20. C'est ça le problème, Madame Manuel. Cet enfant pourrait faire des progrès si on pouvait s'occuper de lui de manière privilégiée. En m'en parlant des cas d'enfants qui leur posent des problèmes, j'ai souvent entendu les instituteurs, les institutrices d'école maternelle et de CP s'exprimer ainsi. Combien de fois la maman dit la même chose ? Au psychologue, à l'institutrice, au pédiatre, au professionnel que je suis. Mon enfant ne travaille pas bien à l'école. Ce n'est pas qu'il ne fait pas ses devoirs, ce n'est pas qu'il ne veut pas travailler, c'est qu'il faut que je sois à côté de lui. Si je suis là, il travaille. Si je ne suis pas là, il ne travaille pas. Est-ce qu'il est trop bébé ? Notre problème, dit la famille, c'est que notre enfant ne veut pas travailler seul. Il ne sait pas travailler seul. Je pense que cette expérience, nous l'avons toutes plus ou moins connue. Un enfant qui a besoin que sa maîtresse ou un de ses parents soit à côté de lui pour travailler. Tout se passe comme si nécessité d'être pensé par et dans la tête des autres pour pouvoir continuer à penser. Le retour de l'enfant auprès des adultes pour s'assurer qu'ils sont là, près de lui, pourrait s'interpréter comme une vérification de sa présence permanente dans leur pensée, comme s'il lui fallait exister dans la continuité de la pensée des adultes, des autres, pour avoir lui-même une continuité de pensée. Soutenir la continuité de la pensée est un exercice violent. Et cette affirmation, je n'aurais pas la nécessité de la démontrer. Parce que dans 20 ou 10 minutes, il y en a beaucoup parmi vous qui auraient la tête ailleurs. Ou il y en a peut-être déjà qui pensent à autre chose. Lorsque nous suivons le fil rationnel d'une pensée, lorsque nous souhaitons assurer la continuité d'une pensée, il nous faut faire un effort. Ce type d'encadrement rationnel qui rend possible un mode de pensée est le résultat d'un processus d'apprentissage, de l'action d'une culture et bien entendu de l'énergie nécessaire pour réaliser un effort. Il est plus facile de ne pas penser, de ne plus réfléchir et de se trouver dans les nuages, dans les rêves, dans l'imaginaire. Et chaque fois que nous réfléchissons, que nous pensons, nous exerçons une violence contre nous-mêmes. Je parle ici de nous-mêmes en tant que moi plaisir, en tant que partie plutôt primitive, voire archaïque de nous-mêmes, qui préfère se nourrir dans la sensualité bienveillante de la passivité. Si nous imaginons ce que devient un enfant complètement livré à lui-même, le cas d'enfant sauvage rapporté par Masson et autres nous le prouvent, l'enfant n'est pas né être rationnel, il se construit en tant que tel. Nous nous produisons en tant qu'être de raison rationnel et ceci est une évolution longue, faite d'exercices très violents. Dans cet ordre d'idées, penser c'est souffrir parce que quand on pense rationnellement, on ne peut pas se satisfaire et quand on jouit, on ne peut pas penser. Ces deux actes ne peuvent être simultanés, ils sont opposés. Le plaisir, la jouissance et la pensée sont contradictoires. La jouissance est toujours une décharge pulsionnelle qui rétablit l'économie émotionnelle de notre personnalité. Pour penser, réfléchir, il est indispensable d'avoir un contrôle sur ses pulsions, une régulation appropriée de notre imaginaire. Tout de même, nous pouvons nous demander pourquoi un enfant voudrait-il rester dans la simplicité de ce moi de plaisir. Si j'ose le dire, dans le domaine de la psychologie, nous constatons parfois que l'enfant évite de penser parce qu'il réalise une condition pénible de son existence. Cela peut être l'existence familiale actuelle ou passée, réelle ou imaginaire. Parfois, penser fait souffrir. Il y a des moments où l'enfant évite de penser pour éviter la souffrance liées aux circonstances généralement familiales. À partir de cette constatation, l'exploration du monde affectif de l'enfant en fonction de la famille me semble fondamentale. Pour arriver à explorer l'importance, je pose le postulat des prémices suivantes. Plus l'enfant est petit, plus sa vie affective est tributaire et dépendante ou en interaction directe avec la vie affective de la famille, comme cette petite fille qui refusait de me serrer la main. Mais plus l'enfant est grand, plus sa vie affective et ses problèmes sont à lui. Ces prémices me semblent encore plus valables dans l'étude d'un enfant considéré comme déficitaire, qui est en quelque sorte un enfant qui restait petit. Pour certains enfants, ceci est tellement évident que vous pourriez changer leur date de naissance de 3 ou 4 ans en moins et personne ne le soupçonnerait. Donc, je vous avance en conclusion les idées suivantes. La première est que l'enfant a besoin de découvrir qu'il a une tête. Tant qu'il ne le sait pas, il va continuer à utiliser ses capacités pour nier ses possibilités et utiliser son intelligence contre lui-même. La deuxième, c'est que l'enfant a besoin d'être pensé par les adultes. Sinon, il ne peut pas porter la continuité de la pensée par lui-même, parce que cette continuité est un exercice de violence. Le troisième élément, la vie affective de l'enfant, est tributaire de la vie affective familiale, d'autant plus qu'il est considéré comme déficitaire. Il est important de comprendre d'abord la vie affective de la famille et ensuite comment l'enfant associe et inscrit cette vie affective dans sa tête. Pourquoi faire ? Pour trouver peut-être une place différente, celle de l'enfant et celle des parents, voire des adultes, dans sa propre famille.
Alors, Marie-Christine Manuel, peut-être une question. Ce que vous décriviez me fait penser à certains enfants qui n'ont pas de problèmes particuliers dans leurs premières années. Et puis l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur va les faire, entre guillemets, régresser.
Oui, oui, c'est vrai. Oui,
est-ce que c'est pas justement le même un processus finalement similaire ? C'est-à-dire que pour attirer l'attention, ils vont ne plus savoir faire les choses.
Oui, alors tout à fait, ça c'est quelque chose, merci de l'évoquer, en tout cas qui peut arriver relativement souvent. Alors ça peut être justement par jalousie, puisque la jalousie est un est un ressenti tout à fait naturel hein, dans des relations fraternelles. Et effectivement, l'enfant peut chercher à vérifier s'il est toujours dans la tête des parents. Parce que forcément, à l'arrivée d'un deuxième enfant ou d'un enfant, eh bien, toute l'attention est mobilisée autour de ce nourrisson. Hein, qui a plus de besoins, en tout cas au quotidien, que l'enfant plus grand. Et effectivement, l'enfant peut peut-être réagir en disant ben, « je ne fais pas, je n'obéis pas, je ne fais plus, je ne sais plus ». Peut-être, comme vous dites, pour mobiliser l'attention, et aussi peut-être, comme je le disais, pour vérifier que dans la tête des parents, il y a toujours sa place, en fait. Si on pense à lui, si il est toujours là, même s'il n'est pas à côté des parents, est-ce que ses parents pensent à lui ? Je suis toujours une personne voilà, qui est susceptible de bénéficier de l'attention des uns et des autres. Oui, c'est une réaction assez naturelle, assez classique. Mais pour les enfants peut-être un peu plus fragiles, eh bien, cette attitude peut effectivement avoir des conséquences plus ou moins complexes, plus ou moins faciles, dans la mesure où l'enfant peut faire ce qu'on appelle un blocage hein, quant à ses capacités, surtout cognitives, voire scolaires. Hein. Et donc, c'est comment on va reconstituer, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, hein, c'est-à-dire de prendre conscience que, ben, effectivement, dans sa pensée, bien sûr, ses parents sont présents, mais qu'en est-il, en fait, de la pensée, la réflexion des parents à son sujet hein. Effectivement, c'est une question très importante. Donc, on retrace toute cette dimension et surtout, grâce au soutien et grâce à l'accompagnement des parents hein, en consultation, où il est évoqué, par exemple, ce petit garçon eh bien, qui avait commencé à apprendre à lire et puis qui ensuite voilà, ne se débrouillait plus. Alors que justement, quand un nouvel enfant apparaît, eh bien, les parents sont moins disponibles. Et donc, il fallait en plus que les parents s'occupent de nouveau de l'enfant qui était plutôt autonome. Hein. Eh bien, les parents peuvent dire, mais voilà, je sais que tu travailles bien, je pense à toi, je sais qu'on va pouvoir aller se promener, tu es toujours dans notre cœur. Voilà, je pense à toi quand tu es à l'école, je sais que tu es avec tes amis, que ta maîtresse s'occupe bien de toi. Voilà, on reprend ces phrases qui aident l'enfant hein, à prendre conscience, à reprendre conscience que même s'il est loin des parents, même si les parents s'occupent du petit, eh bien, les parents pensent à lui et il existe toujours dans la tête des parents et surtout dans le cœur des parents. Voilà.
Alors, nous avons eu un appel d'une auditrice qui n'a pas souhaité passer à l'antenne. Oui. Alors, je vais essayer de traduire, d'exprimer ce qu'elle m'a dit au téléphone. Oui. Voilà, elle vous remercie pour cette émission parce qu'elle s'est enfin comprise.
D'accord. Bon, bah écoutez, ça me fait chaud au cœur, hein, parce que des témoignages comme ça, des retours, ne peuvent que m'encourager à continuer à faire ce travail auprès des enfants qui ont besoin hein, de se rendre compte que voilà, ils ont une tête pensante, qu'il y a plein de choses importantes qu'ils apprennent. Et c'est un travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nécessite une petite exigence et qui nécessite de tenir la barre. Hein, voilà. Parce que ben, nous sommes tous comme ça. Travailler, c'est un vrai effort. Nous serions mieux, peut-être, en tout cas dans un premier temps, voilà, en train de rêvasser. Nous en avons besoin, hein, puisque mon ami Louis Vasquez, formateur, disait que l'ennui, hein, la rêverie peut être source de créativité. Mais en ce qui concerne l'apprentissage, eh bien, voilà, nous avons à lutter contre ce côté un peu régressif, hein, voilà, que nous avons tous. Hein. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir d'entendre ce témoignage.
Et, oui, et cette auditrice demandait si vous aviez écrit un livre sur le sujet.
Non, mais j'ai un petit article qui pourrait peut-être l'intéresser. Donc, je pourrais éventuellement lui faire passer ce petit article. Voilà. Ou tout au moins, puisque mon intervention est basée sur cet article-là. Voilà.
Alors, justement, je vais rebondir sur cet appel de cette auditrice. Quelquefois, on voit des adultes qui vont dire « Mais non, moi, ça, je ne sais pas le faire, je te laisse faire, hein, parce que moi, je ne sais pas le faire. » Est-ce que, justement, ce serait parce que il y a eu cette perte de confiance à l'enfance et cette facilité à se retrancher derrière cette phrase « je ne sais pas faire » ou « je ne sais pas ».
Oui, alors c'est une stratégie, si je peux me permettre cette expression, même si les personnes peuvent, comme vous dites, manquer de confiance en elles en disant « je ne sais pas hein ». Mais justement, cette idée que finalement en disant je ne sais pas, elle est dans le vide, dans le manque, alors qu'elle est très compétente en faisant travailler les autres. Voyez, donc comment elle utilise cette stratégie pour justement fonctionner entre guillemets à l'économie. Donc avant d'essayer de comprendre ce qui fait qu'il y a cette tendance à fonctionner à l'économie, ben je mets en évidence des compétences. Je peux lui demander, par exemple, si la personne vient en consultation ou si elle est plus ou moins jeune, si elle vient accompagnée de ses parents. Je commence à explorer l'impact relationnel, hein, c'est-à-dire comment elle a appris à dire « je ne sais pas ». Hein, je peux lui dire ben, « voilà comment vous avez appris à dire « je ne sais pas ». Et la personne peut dire, eh ben, en fait, j'ai réalisé que quand je dis je ne sais pas, il y a toujours quelqu'un de bien intentionné qui fait les choses à ma place. Oui, et alors, ah ben, du coup, c'est assez reposant. Oui. Et on développe comme ça. Hein. Et puis, est-ce que justement, ça vous convient de faire comme ça? Des fois, ça convient. Des fois ça me convient, des fois ça me convient pas. Et déjà là, on est dans l'idée que peut-être il y a une alternative, qu'à certains moments ça peut être adapté, puis à d'autres moments c'est moins évident. Et je lui dis, ben en quoi ça vous convient? Elle peut dire, ben voilà, je vois qu'on fait attention à moi, qu'on s'occupe de moi. Super, oui. Et à d'autres moments, c'est moins facile, c'est moins confortable. Alors, la personne peut me dire, oui, c'est moins confortable quand, par exemple, je dis même pas « je ne sais pas » et que mon compagnon, ma mère, mon père font les choses à ma place, surtout devant les copains, surtout devant les amis. Et c'est comme ça qu'on déplie un petit peu des raisonnements, en fait, qui montrent à quel point la personne peut quand même se donner des alternatives. Hein, et c'est ça la richesse, en fait, de ce travail. C'est de découvrir avec la patiente, avec le patient, avec l'enfant, l'adolescent, les familles, à quel point nous pouvons découvrir que même la personne qui se déconsidère ou utilise justement cette intelligence contre elle-même, en quoi, eh bien, elle a des compétences, mais déjà des compétences à faire travailler les autres. Voilà.
Alors, justement, peut-être le conseil qu'on pourrait donner aux parents, que l'enfant ait des difficultés ou non, c'est dans la mesure du possible et dans la plupart du temps, de laisser faire l'enfant, laisser se vêtir tout seul, ou laisser ses chaussures tout seul, d'autres choses, ou l'impliquer peut-être aussi, lorsqu'il a l'âge requis, bien sûr, dans des activités comme mettre la table, etc., plutôt que de faire à sa place.
Oui, en même temps, c'est laisser faire, mais être là. Vous voyez, c'est pas pareil si on demande. Après, ça dépend de son âge, bien évidemment, hein. Mais si le parent dit va t'habiller, parce que le matin c'est souvent un peu la course, hein, mais que l'enfant est tout seul et qu'on n'a pas forcément pris le temps le week-end de lui montrer comment on s'habille, et si l'enfant est tout seul dans sa chambre, combien de parents disent « Je lui dis d'aller s'habiller, je reviens 10 minutes après, il n'a pas bougé. » Donc c'est comment effectivement laisser faire, mais c'est d'abord montrer comment faire. Voilà, je te montre comment, comment il faut t'habiller. Après, je vais voir comment tu fais pour t'habiller tout seul. Et je vais te montrer, on va régler ce qui est compliqué, ça plusieurs fois. Et après, on peut dire à l'enfant, mais habille-toi, montre-moi comment tu t'habilles. Et ensuite, le parent peut dire, écoute, pendant que tu t'habilles, je sais que tu t'habilles, je pense à toi, je sais que tu t'habilles, mais voilà, je vais prendre ma douche ou m'occuper de ton petit frère, de ta petite sœur. Voilà, je vais m'habiller moi aussi. Voilà, c'est montrer à l'enfant qu'on pense à lui. Alors, il y a plusieurs façons. Voilà, donc c'est tout un chemin, en fait. C'est pour ça que moi, je suis toujours admirative de ces parents, mère, père, et puis aussi de tous les adultes qui sont autour de l'enfant, de tous les éducateurs, grands-parents, éducateurs... aumôniers, voilà, et qui ont cette force et cette capacité de persévérance pour éduquer l'enfant dans un apprentissage à l'autonomie, parce que ça prend du temps. Mais je dis toujours, comment on prend du temps qui permet ensuite de gagner du temps. Et voilà, donc c'est effectivement laisser faire, mais dans une présence qui nécessite comme ça des phases qu'il faut, à mon avis, respecter. Voilà.
Et bien, merci.
Et mère de 5 enfants, je sais que ce n'est pas forcément très facile. Voilà.
Merci beaucoup, Marie-Christine Manuel. Nous arrivons au terme de notre émission et puis on vous retrouvera une prochaine fois sur un autre thème.
Avec plaisir.
Merci.
Bonne journée à tout le monde.
Merci.
Merci Sandra, merci à vous.